puis toutes sortes d'impuretés. Puis on est rendu comme un peu dur. On voit des choses, puis on ne réagit même plus. Des fois, on les accepte, puis comme si ça fait partie de la vie, puis ça n'a aucun effet sur nous autres. Ça n'a même pas l'effet que ce serait supposé de faire, de qu'on commence à haïr ces choses-là, puis à refuser ça. À quelque part, il y a comme une brume qui se fait dans notre esprit, dans nos pensées, puis ça nous empêche de saisir la vraie pensée de Dieu dans une situation. Mais ce matin, il y a un message que le Seigneur nous donne, qui m'a donné, qui m'a béni au bout, puis je sais qu'il va vous bénir, en autant qu'elle trouve de la foi dans vos cœurs. Parce que tout ce qu'on va voir ce matin, ça vient de la parole de Dieu. Comment est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont déjà été volés chez eux? Qu'il y a des personnes qui ont rentré chez vous, qui ont pris de vos biens. Comment est-ce qu'on trouve ça? Est-ce que c'est réjouissant? Est-ce qu'on a parti à arrêt et on était content? Ou on arrive puis il y a du monde qui ont fouillé dans nos affaires? On est reviré à l'envers? On cherche des choses, on les trouve plus? C'est quoi qui s'est passé? On était-tu content de collecter les assurances ou on réalisait qu'il y avait de quoi de grave qui s'était passé? Quelqu'un est venu fouiller dans nos affaires puis il est venu prendre ce qui nous appartenait. Il y a comme une injustice, une révolte, mais quasiment, il y a quelque chose qui est supposé de nous animer. Je dis pas qu'il faut nous animer au point d'aller tuer les malfaiteurs, mais il serait supposé d'avoir quoi qui monte, là, puis dire, hey, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qui se passe là, puis le prochain coup aussi, on peut s'arranger pour que ça se reproduise. Mais le principe que je veux qu'on retienne ce matin en partant, c'est on est supposé de réagir sur des choses. Puis le Seigneur va nous parler de choses ici ce matin, puis il veut nous faire réagir. Je vais vous parler du plus grand voleur de tous les temps. C'est un voleur qui n'a jamais assez. Il commence à voler une place, il prend tout ce qu'il a, après ça, il s'en va à une autre place, il prend tout ce qu'il a, puis il s'arrête jamais. C'est un voleur qui ne ramasse pas pour essayer de s'enrichir, puis qu'une fois que tout est acquis, qu'il en a assez, qu'il arrête. Non, le voleur que je vais vous parler ce matin, il a commencé à faire un œuvre pour voler ce que Dieu avait donné, puis il n'a jamais assez. Il veut tout prendre. Puis il ne fait pas juste voler, que la Bible nous dit. Il lie ses victimes, puis il les tue. Il y en a des fois, les voleurs, ils se contentent juste de faire un petit vol à l'étalage. Mais il y en a qui sont encore plus pire que ça. Ils kidnappent des gens, ils volent tout ce qu'il y a là, ils payent tout ce qu'il y a là, ils lient les personnes, puis les tuent. Puis encore plus fort que ça, il y en a qui détruisent tout ce qu'il y a là aussi. J'ai déjà entendu parler de personnes qui ont rentré dans des camps ou des maisons. Ils ont tout saccagé la maison, tout cassé. Ils ont tout volé. Puis ils ont battu les personnes qui étaient là. Mais c'est de ce voleur-là que je vais vous parler. Que quand il rentre dans la vie d'une personne, ce voleur-là, ça descend jusque dans tous les proches de cette personne-là, que ça a un impact, ça a un effet, puis qu'il continue d'agir, puis à ravager, puis à détruire tout ce qui se passe, même autour des proches de ceux qui sont les victimes. Puis en plus de ça, il est incognito. Personne ne le remarque. Il agit subtilement. Personne ne sait qui est là. Première nouvelle qu'on sait, le stock est disparu, on est lié, on est tout massacré, on traîne à terre, puis tout ce qu'on a est détruit. On entend parler des nouvelles, toutes sortes de choses. Il y a eu un crime à telle place, il y a eu telle affaire à l'autre place, mais lui, ce voleur-là, on n'entend jamais parler. On n'entend même pas parler des ravages qu'il fait. Il vole le monde, il tue, il paye, il détruit tous ses biens. Pas une annonce des nouvelles. Puis le monde continue, ça tient de sa mort. Personne n'en parle. Puis il accumule ses crimes depuis le commencement de la création. Il y a-tu de quoi qui commence à pousser un peu dans notre réaction? Y a-tu de quoi qui commence? Ça peut-tu s'arriver, c'est quelqu'un qui soit aussi méchant que ça, puis qui produise des choses aussi graves que ça? Pensez-vous que ça arrive, ça? Il y a un verset qui nous dit dans la parole, dans Éphésiens 5, le verset 11, « Les œuvres des ténèbres doivent être mises à la lumière. » Il dit, « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Puis le mot « condamner » peut être pris dans le sens « dénoncez-les, mettez-les à jour. » Les œuvres infructueuses des ténèbres. Celui à qui je veux parler ce soir, vous savez, j'avais tout compris que je parle du diable. Ce soir, c'est ce matin. On est encore au matin, même si c'est sombre. On peut en parler jusqu'à soir. Mais là, je vous parle du diable. Je vous parle de ses œuvres qui doivent être dénoncées, mises à jour. Y a-t-il quelqu'un qui va en chercher une bouteille d'eau en arrière, s'il vous plaît? Il n'a plus un restant, un fond. Le Seigneur veut mettre à jour des œuvres qui sont cachées, qui sont subtiles, qui sont faites en dessous de la couverture. Personne ne s'en rend compte. Mais s'il nous les montre ce matin, c'est dans le but qu'on réagisse là-dessus, qu'on commence à dire, là, ça suffit. Je n'irai pas plus loin. Il y a un verset dans Jean, au chapitre 10, le verset 10, il dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, ça c'est voler, égorger, ça c'est tuer, et détruire, c'est comme je vous disais, il ne se contentait pas juste de voler, il kidnappait les gens, il les tuait, puis il détruisait tout ce qui lui appartenait. » Ça c'est le voleur, c'est Jésus qui parle de lui, là. C'est pas moi qui inventais ça. Mais Jésus dit, « Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » On peut-tu voir le contraste qu'est-ce que Jésus veut faire? Il veut nous communiquer la vie puis qu'on soit dans l'abondance. Puis à quelque part, si on a été volé, si on est comme presque tué ou tout démoli, puis si on s'est fait voler nos promesses, ça vient pas de Jésus, ça vient pas de Dieu, ça vient de l'ennemi. Le Seigneur est avec des projets de bénédiction pour l'humanité. Gloire à Dieu. Dans Genèse au chapitre 1, le verset 27 et 28, la Bible nous dit que Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Puis regardez bien le prochain mot que je vous dis. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu avait même des bons projets pour l'humanité. C'est pas Dieu qui a décidé de mettre ça en branle, projet de malheur, de destruction, de tuerie, puis de vol. C'est pas Dieu, ça. Dieu, c'était juste, Dieu les bénit, puis il leur dit, soyez féconds, remplissez la terre, puis dominez, je vous donne tout ce qui est à moi. Tout ce que j'ai créé, je vous le donne. Je vous établis sur les œuvres de mes mains. Et tiens, amen. Ça, c'est le Dieu qu'on sert, ça, qui a fait ça comme ça. Dans ce que nos premiers parents avaient reçu, tout était très bon. Dans la Genèse, au chapitre 1, verset 31, il dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il n'y avait rien que du bon à faire, Dieu, pour nous autres. Mais à quelque part, le voleur que Jésus nous a annoncé dans l'autre verset, le voleur, il est venu pour séduire puis tromper par du mensonge Adam et Ève pour qu'ils perdent leur héritage et pour voler ce qu'ils avaient reçu de Dieu. Ce voleur-là, il s'est introduit par de la ruse, de la subtilité, du mensonge, de la séduction, pouvant projeter même que ça serait meilleur avec lui. C'était toute de la tromperie. C'est le même qui s'est pris pour pouvoir aller voler les promesses de Dieu à Adam et Ève. Dans Genèse, au chapitre 3, le verset 1 à 6, je vais vous le lire rapidement. « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. » Parce que ce serpent-là qui s'est présenté à Adam et Ève, la Bible a dit, c'est le serpent ancien qui est le diable et Satan. Il y avait vraiment le diable à l'intérieur de ce serpent-là qui s'est approché. Il a commencé à semer le doute dans la pensée d'Adam et Ève. Il dit, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous en mangerez point, puis vous y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, qui était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, puis elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Adam et Ève avaient été placés dans le jardin. Le jardin d'Éden, c'était l'endroit le plus élevé de la planète. C'était un jardin qui poussait toutes sortes de fruits, qui avait le droit de manger de tous les fruits, sauf un. Le fruit qui ouvrait l'intelligence pour connaître le bien et le mal. Dieu avait une raison de mettre ça là. Mais Dieu, il leur avait dit, vous n'en mangerez point. Puis le jour que vous allez en manger, vous allez mourir. Lui est venu par du mensonge, de la ruse, de l'hypocrisie, de la subtilité. Il a dit, c'est pas vrai qu'est-ce que Dieu dit. Crée pas ça. C'est des mensonges. Voyons donc si vous allez mourir. Mais Dieu sait que ça va être meilleur pour vous autres. Votre intelligence va s'ouvrir, puis vous allez être capable de discerner le bien et le mal, vous autres même. Vous allez être comme des dieux. Ils se sont laissés séduire, ils ont cru aux mensonges, puis ils ont tout perdu ce que Dieu avait fait de très bon pour eux. On va voir quelques passages dans la parole de choses que Adam et Ève ont perdues. Le premier point, c'est le jardin de Dieu. Dans le jardin de Dieu, il y avait la bénédiction au point de vue de la nourriture et de l'abondance. Dans Genèse 2, les versets 8 et 9, il dit, « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, puis il mit l'homme qui y avait formé. » L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans Genèse 2, chapitre 16 et 17, il dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de toutes les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il avait été pris du sol de la terre, de la poussière de la terre. Il avait été formé. Dieu a soufflé le vent pour qu'il devienne vivant. Puis il a pris l'homme, puis il a créé un jardin. Puis il a pris l'homme, puis il l'a mis dans un jardin où ce qui poussait toutes sortes de beaux et bons fruits qui leur communiquaient la santé, la force physique. Il vivait en santé. Il vivait dans une bénédiction d'abondance. Il n'y a pas besoin de chercher à piocher la terre. Comme qu'on est rendu aujourd'hui, tout poussait tout seul, il y avait juste à le garder et à le cultiver. Tout était là. Mais la conséquence du vol que l'ennemi a fait dans Genèse 3, 23, après qu'ils ont tombé dans le péché, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Ils ont perdu les bénédictions de nourriture et d'abondance que Dieu leur avait accordées. Ils ont perdu aussi l'arbre de la vie. Ça pouvait leur apporter la santé, ça leur apportait aussi la vie éternelle. Dans Genèse 2, le verset 9, il dit, « Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. » Il y avait toutes sortes d'arbres qui étaient là, mais il y avait un arbre de la vie. Cet arbre-là leur aurait donné de la santé. Il aurait arrivé n'importe quoi, un microbe, n'importe quoi. Je crois que cet arbre-là, il aurait mangé de ça, puis il aurait communiqué une grâce de vie, un souffle de vie, la santé, une restauration, la bénédiction aurait coulé dans leurs veines, puis ça les aurait maintenus à garder la vie éternelle, à vivre éternellement sur cette terre. Si on regarde la conséquence quand ils sont faits voler, Genèse 3, 22, il dit, « L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. » À cause de la désobéissance, à cause de qu'ils se sont fait voler ce que Dieu leur avait donné, ils ont perdu la santé et la vie éternelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça découle les maladies, la souffrance et la mort. À cause que l'accès pour pouvoir saisir de cet arbre de vie-là nous a été bloqué à cause que l'ennemi est venu nous voler ce que Dieu avait donné à l'homme. Ils ont perdu aussi l'innocence. Dans Genèse 2, 25, l'homme et la femme étaient tous deux nus, puis ils n'en avaient point honte. C'est pas ça qu'on veut aujourd'hui. Quand on se promène tout nu, on le sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct. Mais dans ce temps-là, l'innocence, ça ne dérangeait même pas de se promener tout nu. Ils ne connaissaient pas ça, ce qui était bien, ce qui était mal. Ils étaient dans leur pensée, c'était pur devant Dieu. La conséquence du vol, dans Genèse 3, 7, les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, ils connaissent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent pour faire des ceintures. Leurs intelligences s'est ouvertes, ils ont perdu leur innocence, puis ils ont commencé à sentir qu'ils n'étaient pas corrects, à sentir qu'ils étaient nus, puis ils ont commencé à se faire des feuilles pour commencer à se cacher. Ça l'entraînait une autre perte, le fait de s'avoir fait voler, ils ont perdu leur communion intime avec Dieu. Il était dans le jardin, il pouvait lui parler au Seigneur, il pouvait courir, s'amuser dans sa présence. Il était en contact continuellement avec le Seigneur. Le Seigneur arrivait puis lui parlait comme qu'on peut se parler aujourd'hui. Il était présent dans leur vie continuellement. Qu'est-ce qui est arrivé comme conséquence de leur vol? Ils se sont cachés parce qu'ils avaient peur. Genèse 3, le verset 8 à 10. « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Quand ils ont perdu leurs innocences, quand ils ont perdu... Le fait, ils sentaient, ils étaient à partir des innocents, mais ils se sont retrouvés, ils étaient nus, se sont fait des feuilles, ils se cachaient, puis ça n'a pas juste été qu'ils se cachaient l'un de l'autre, ça a fait qu'ils se cachaient même de Dieu. Le Seigneur, il s'en venait encore pour leur parler, ils se sont cachés, loin de la face du Seigneur. Ils ont perdu leur communion intime qu'ils avaient. Avant, ils auraient pu continuer à parler avec, puis être contents d'être là dans sa présence, il n'y avait rien qui faisait un obstacle. À cause du piège de l'ennemi, ils se sont vus qu'ils étaient nus, ils ont perdu leur innocence, ils ont perdu leur contact intime avec Dieu, ils se sont cachés. Puis Dieu, tu vois encore quel cœur à vouloir se rapprocher de Dieu, l'Éternel appela l'homme. Il a commencé à crier, « Où es-tu, Adam? Où est-ce que vous êtes? Je veux vous parler. Je veux encore garder ce contact-là. » Mais eux autres, ils avaient peur. Leur vie de paix et de joie en lui, ils l'ont perdue. Il y avait une facilité de s'approcher de Dieu, puis de se réjouir dans sa présence, d'être content que Dieu soit là. Ils ont tout perdu quand l'ennemi est venu les tromper, puis les voler. C'est quoi que ça a eu comme conséquence? Il y avait de la facilité dans ce jardin-là. Il y avait juste à saisir les fruits, d'en manger, puis tout était le bonheur total, mais ça, la conséquence... C'était de la souffrance, du travail dur à la sueur de leur front, de la maladie et de la mort. C'est ça qui était la conséquence du vol que le diable a fait dans leur vie. Genèse 3, le verset 16 à 19, il dit, « Et il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Puis il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, que tu as mangé de l'arbre, au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en retireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces. Tu en mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où ce que tu avais été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » C'est à toutes les conséquences qui devaient découler de leur désobéissance. Ils ont perdu les promesses de Dieu. Tout était très bon au commencement, puis ils se sont retrouvés avec rien, puis de la misère, de la souffrance, ils étaient obligés de travailler le sol, puis ils produiraient des épines et des ronces, puis les maladies. Ça ne s'est pas arrêté là, les problèmes. Ils ont perdu la bénédiction familiale. Genèse 1, 27 et 28, il dit, « Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds. » Dieu les avait bénis. Puis Dieu voulait bénir sa descendance quand il dit, « Soyez féconds. » Qu'il y a une innombrable multitude qui pouvait naître d'Adam et Ève. Puis Dieu voulait mettre sa bénédiction sur eux autres. C'est une bénédiction qui devait se transmettre dans la famille. La conséquence, c'est qu'un de ses enfants a tué l'autre de ses enfants. Puis une autre conséquence, l'enfant qui restait, lui, était chassé de la présence de l'Éternel vers des terres lointaines. La bénédiction familiale, finie. Plus de bénédiction familiale. Pourtant, il y avait des promesses que Dieu avait des projets de domination sur la création, puis des projets de bénédiction, tout perdu. Dans Genèse 4, 14, ça parle justement de Caïn, qui avait tué son frère. « Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » La conséquence était, la famille est dissoute, clouche. L'ennemi est venu pour détruire ce qui appartenait à Adam et Ève. Il ne vole pas juste les promesses, il détruit, puis la mort est venue dans la vie d'Adam et Ève aussi. Ils ont perdu aussi leur poste d'autorité spirituelle, parce qu'ils avaient été créés de la poussière du sol, puis ils avaient été amenés dans l'endroit le plus merveilleux de la terre, le jardin d'Éden. C'est l'endroit le plus élevé. Il n'y a pas de plus beaux endroits sur la terre que le jardin d'Éden. C'est un poste d'autorité quand Dieu a dit « Je vous établis pour régner sur toute la création de ma main ». Il devait vivre un trip de bonheur, mais d'autorité, de gloire. Il avait été pris de la poussière du sol, puis il avait été emmené dans ce paradis-là. Paradis terrestre, c'est ce qu'on appelle. Il est dit dans Genèse 2,15, « L'Éternel Dieu prit l'homme, puis il plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. » Puis c'est un sol fertile où la bénédiction était là. La conséquence, mais dans sa chute, il s'est retourné vers la terre d'où ce qui avait été pris. Dans Genèse 3, 23, « Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il le cultivât, pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. » Ben moi, je trouve ça grave. Là. Je ne sais pas si vous trouvez ça grave, ces affaires-là, mais... Leur service pour Dieu, ils l'ont perdu. Il était le gardien, le chef du plus bel endroit que Dieu avait créé, puis la conséquence, il s'est retrouvé à piocher comme un serviteur dans un sol sans fertilité. Ils se sont fait voler toutes les bénédictions de Dieu. Est-ce que cela nous choque? Est-ce que ça nous désole? Peut-on rester indifférent à ce qu'on entend là? Parce que veut pas, même si on dit, ouais, mais ça, c'est Adam et Ève qui ont tout perdu, tant pis pour lui. Ça s'est transmis, cette malédiction-là, ce malheur-là, sur toute sa descendance. Tout le monde qui sont nés d'Adam et Ève subissent les effets de cette perte-là, de cette perte de bénédiction que Dieu avait préparée au début. C'était des projets de paix et de bonheur. Là, c'est de la misère, de la souffrance et de la mort qui est étendue à travers toute l'humanité. Essayez de penser à tous les faits historiques de destruction qu'on a pu voir à la télévision. On n'a pas besoin d'aller loin, juste avec Hitler et tout ce qui s'est passé là. Mais regardez, à travers tous les temps, ça a été des choses semblables, la destruction, du malheur. C'est à cause qu'on s'est fait voler les bénédictions de Dieu. Indirectement, c'est nous autres aussi qui s'est fait voler. J'ai demandé tout à l'heure, est-ce que ça vous a dérangé de vous faire voler quand le monde est allé fouiller chez vous? Mais Dieu, il veut susciter comme un petit quelque chose en dedans de nous ce matin pour qu'on puisse commencer à dire, « Hey, c'est mes affaires que je me suis fait voler. » Le Seigneur a sûrement quelque chose pour nous autres, pour nous redonner qu'est-ce qui nous a été pris. J'ai pas gros dormant. Est-ce que le Seigneur a un autre plan pour nous autres qu'on puisse récolter ce qui nous a été enlevé? Ces bénédictions qui ont été données à Adam et Ève, c'est-tu une perte à toujours? Je pense pas. Dieu a de quoi de spécial pour nous autres qui nous est révélé à travers son Fils Jésus. Voici maintenant la bonne nouvelle en Jésus. Dans Jean 10:10, le premier verset que j'ai lu tout à l'heure, il dit « Jésus est venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Jésus, quand il est venu, il guérissait les malades, il ressuscitait les morts, il pourvoyait monétairement quand il a dit « Va à pêche, ramasse la pièce de monnaie, puis paye pour nous autres. » Il a pourvu à nourrir des multitudes, 5 000 personnes une fois, puis une autre fois, il y en avait autant. avec la pêche miraculeuse aussi, il a fait plein de choses pour faire le contraire de ce que le diable il a fait rentrer dans le monde. Ça commençait par lui, la bénédiction que Dieu est venu nous visiter pour nous bénir, pour nous communiquer, nous redonner tout ce que le diable nous a volé, tout ce qu'on a perdu à cause d'Adam et Ève. Il nous donne d'être participants de la nature divine quand on vient en lui. Il y a des nouvelles lois spirituelles qu'on peut obtenir quand on est en Jésus. On n'a pas à croire le mensonge du diable que, à cause qu'on vit dans ce monde, c'est normal que moi j'ai une maladie, parce que tout le monde en a des maladies, on rendu un certain âge. C'est normal que moi, j'ai pas d'ouvrage, parce qu'on est dans un temps de pauvreté ou un temps de récession. C'est normal que mes parents meurent, puis que la vie va mal autour de nous autres, c'est normal, puis que ça puisse aller mal aussi dans ma vie à cause que ça va mal dans la vie de tout le monde. Non! En Jésus-Christ, on a les plus grandes et les plus précieuses promesses, puis c'est toutes les promesses de Dieu qui sont pour nous autres. Il y a une nouvelle loi spirituelle qui fait que quand on est son peuple, on est ses enfants, quand on est en lui, on obtient toutes choses nouvelles, des nouvelles choses qui sont données, des bénédictions spirituelles qui sont là en Jésus-Christ, puis elles sont pour nous autres. Puis qu'on a réalisé que c'est là, qu'on a pu à marcher comme dans Adam, dans la disette, dans la pauvreté, dans la maladie, dans les souffrances, et se diriger uniquement vers la mort. Non, il y a une nouvelle espérance qui est donnée en Jésus, de mes brebis, afin qu'elles soient dans la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est ça qui est le plan de Jésus pour nous autres. Il faut arrêter de se faire voler ce que le diable nous met dans la tête, là, des mensonges, des doutes, des tromperies, des séductions, pour essayer de nous faire part des promesses de Dieu qu'il y a pour nous autres. Nous sommes des êtres ressuscités. Nous sommes assis dans les lieux célestes, dans une nouvelle autorité. Adam et Ève ont perdu la sienne. On ne vivra pas dans cet état-là. Il faut vivre dans le nouvel état qui est en Jésus, dans une autorité spirituelle, puis qu'on est au-dessus de toutes les circonstances, parce qu'on marche dans le nom qui est au-dessus de tout nom. On a l'autorité sur toutes les puissances des ténèbres. On a l'autorité et le pouvoir sur eux, parce qu'on marche dans l'autorité et le pouvoir du royaume de Dieu, de le royaume de la lumière. Autant que le diable n'a aucune autorité et aucun pouvoir contre Jésus, mais le diable n'a aucune autorité et aucun pouvoir sur ses enfants, sur son peuple, sur son corps dans la terre. On doit réaliser qu'on est dans cette autorité-là. On marche dans cette puissance-là. On a reçu toutes sortes de bénédictions célestes, des bénédictions spirituelles de toutes sortes. Un verset dans Éphésiens 1:3 nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Quand tu es un enfant de Dieu, tu es changé de camp. Tu es parti du royaume céleste. Puis les bénédictions spirituelles sont pour nous autres. On n'a plus à marcher dans la condamnation ou dans l'abattement ou dans la défaite. On a à marcher dans la victoire parce que ces promesses-là sont pour nous. Quand on a revêtu Christ pour le salut, on n'a pas revêtu Christ juste moral et intérieur dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps. Mais ton esprit est ressuscité, mais dans toutes tes émotions, dans ta volonté, dans toutes tes pensées, dans tes souvenirs, on peut croire une guérison intérieure, puis on peut croire aussi que ces meurtrisseurs nous guérit dans notre corps. Jésus est témoin et envoyé vers ceux qui ont le cœur brisé, c'est intérieurement, mais vers les boiteux, les aveugles, les paralytiques, c'est ceux qui sont blessés physiquement, puis il est venu pour guérir tous ces gens-là. C'est le plan de Dieu pour nous autres de guérir son peuple. Il ne veut plus que son peuple marche dans l'abattement puis dans la défaite. Il veut qu'on marche dans la victoire, dans la guérison et dans la santé. Parce que c'est déjà acquis en Jésus-Christ. La vie éternelle, Jean 5:24, il dit en vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Quand tu es en Jésus, tu as la vie éternelle. Tu vas pas au jugement dernier. Tu es passé de la mort à la vie. On était mort spirituellement à cause qu'on marchait en Adam, mais maintenant on est en Jésus-Christ et on marche dans la vie. Y a-tu des amen? Le Seigneur nous redonne le jardin de Dieu qui est la nourriture et l'abondance. Dans Matthieu 6:23, il y a une promesse qui dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses seront données par-dessus. » Ça parle de nourriture, le vêtement, et toutes les choses de base de la vie. Dieu a promis de pourvoir à tous nos besoins parce qu'on est ses enfants. Parce que c'est une promesse qui est en Jésus. Si on saisit cette promesse-là, est assuré que Dieu va s'inquiéter lui-même de nos problèmes, de nos besoins. Puis, il dit, cherche premièrement le royaume et la justice. Le reste, je m'en occupe. C'est des promesses qui sont en Jésus, ça nous appartient. En Jésus, on retrouve l'innocence. En Hébreux, chapitre 10, le verset 16 et 17, nous dit, « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur. Je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute, « Je me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. » Je me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Ça veut dire qu'on est rendu innocent devant Dieu. On n'a plus besoin de se sentir coupable. On n'a plus besoin de se sentir dans la crainte, dans la peur et de se cacher, d'essayer de s'abriter avec n'importe quoi. Quand on entend la voix de l'Éternel, courons devant lui, on n'a plus à se sentir sale, on n'a plus à se sentir coupable. Il dit qu'il a oublié nos péchés et nos iniquités. Rappelez-vous de ce que notre frère a dit l'autre fois. Il dit, il a pris nos péchés et nos iniquités, il les a mis dans la mer de l'oubli, puis il a mis un écriteau de défense de péché. On n'a plus besoin d'aller retourner dans le trou pour sortir tous nos péchés, nos iniquités, pour essayer de ressentir encore qu'est-ce que ça nous produisait. Non, c'est pardonné, c'est oublié. Le Seigneur n'en tient plus compte. On peut rentrer dans le nom de Jésus, dans une pleine accès, une pleine liberté de se présenter devant le Père, un accès dans les lieux célestes, devant le trône de grâce, pour être secouru dans nos besoins. Amen. Il nous a redonné notre autorité spirituelle dans Éphésiens 2:6. Il nous dit, il nous a ressuscité ensemble, puis il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. On est assis là présentement, dans l'autorité, dans le nom qui est au-dessus de tout nom. On a retrouvé l'autorité spirituelle que l'ennemi avait volée à Adam et Ève. Eux autres, ils avaient une autorité de régner sur toute la terre, mais nous autres, on a une autorité encore sur toute la terre et sur tout le monde spirituel. Ils ont retrouvé leur communion avec Dieu en Jésus-Christ. 1 Jean 4,15, il dit, « Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. » Quand tu es en Jésus, tu retrouves ta communion. Dieu demeure en toi. Puis toi, tu demeures en Dieu. On n'a même plus besoin de dire, il faut que j'aille à telle place pour aller prier. C'est sûr qu'on peut le faire pour se réunir ensemble, mais Dieu est toujours avec moi. Il est en moi. Adam et Ève l'ont perdu, ça. Mais en Jésus-Christ, je le retrouve. Une communion intense avec le Seigneur. Il demeure en moi. Il fait sa demeure chez moi, comme qu'il fait sa demeure chez vous. Dans votre maison, ça appartient au Seigneur. C'est sa maison. Il fait sa demeure chez vous, puis il demeure avec vous, puis il soupe à votre table. Il mange à votre table quand vous mangez. Il est avec vous. Il faut vous croyez que Dieu est toujours avec vous. On retrouve aussi en Jésus notre avenir avec Dieu dans Jean 14, le verset 2 à 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il y a un avenir pour nous autres quand tu es en Jésus. Adam et Ève ont son avenir. Tu vas retourner dans la poussière de ce que tu as été pris, car tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Nous autres, c'est pas ça. Nous autres, c'est que Jésus est en train de nous préparer une place, puis quand ça va être le temps, il va venir nous chercher afin que là où ce qui est, on y soit aussi. On ait un avenir, une espérance d'avoir la vie éternelle. D'aller vivre éternellement dans la demeure de Dieu, autant qu'il est déjà présentement en moi et dans ma demeure et dans vos demeures, mais un jour, c'est nous autres qui vont se retrouver dans la sienne. Alléluia! Y a-tu quoi de plus grand que ça? Y a-tu quoi de plus merveilleux que ça? On peut retrouver aussi en Jésus la vie de paix et de joie. Dans Romains 14, le verset 17, il dit, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. » Dieu veut nous communiquer en tout temps, qu'on soit toujours juste, premièrement, mais veut nous communiquer de la paix et de la joie. Ça, ça doit être tous les jours, toutes les nuits, 24 heures sur 24, 365 jours par année, jusqu'à temps que Jésus vienne nous chercher. Si c'est pas là, peut-être que vous êtes en train de vous faire voler. Dieu veut nous redonner aussi des bénédictions familiales. Dans Actes 2,39, il dit, « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Toutes les promesses qui sont en Jésus-Christ sont pas juste pour moi-même, sont pour mes enfants. Dieu, sa bénédiction, veut qu'elle s'étende sur mes enfants, sur toute ma descendance. Il veut bénir jusqu'à 1000 générations qui sortent en arrière de ma descendance et en arrière de votre descendance. Parce que vous appartenez à Jésus, Dieu a promis que ses promesses étaient pour chacun de vous et vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Alléluia. On retrouve en Jésus à faire du service, du ministère pour Dieu. En 1 Pierre 4,10, il dit, « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Adam et Ève avaient reçu un ministère de s'occuper du jardin et de le cultiver, mais il a perdu son ministère. Mais nous autres, il nous en redonne des ministères. Il nous redonne des dons, des capacités différentes à chacun. Puis il dit, comme vous êtes des bons administrateurs de Dieu, là, si vous voulez vraiment l'être des bons administrateurs de Dieu, mettez au service des autres le don que vous avez reçu. Vous l'avez tout reçu. Si quelqu'un pense, « Ah, ben moi, je n'ai pas de don, c'est un mensonge du diable. » Dieu a dit, « Vous avez tous reçu un don, au moins un, et plus. » Puis mettez-le au service des autres. Commencez à penser à vivre pour mon frère et ma sœur. Vive pour ceux qui m'entourent. Vive pour que le don que Dieu m'a donné, que je puisse le faire fructifier. Puis quand on est fidèle dans les peu de choses, il nous en confie encore des plus grandes. Il va nous en donner d'autres dons, d'autres capacités, puis on va être une source de bénédiction pour les gens qui nous entourent à cause de ce que Dieu va produire. Dieu confirme ses promesses. Ses promesses sont en Jésus, il y a un sceau, il y a une confirmation. Il dit dans Hébreux 10, 23, il dit « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Dieu est fidèle. Si tu es en Jésus-Christ ce matin, si tu es en Jésus, crois que Dieu est fidèle. Puis ce qu'il t'a promis, ce qu'il nous promet dans sa parole, il va le faire. C'est pas un menteur, c'est pas un rusé, c'est pas un hypocrite, c'est pas un trompeur, c'est pas un voleur. Il veut qu'on hérite pleinement de tout l'héritage spirituel qu'il nous a donné en Jésus-Christ. Puis il veut qu'on en jouisse, puis il veut qu'on soit heureux avec ça. Mais tout ça, là, c'est ce qui est promis dans la parole de Dieu. Mais je regarde ma vie là, dans mon passé. Souvent, je me suis fait voler ce que le diable m'avait donné en Jésus-Christ. Ça fait. Oui, non, le contraire, excusez-moi, je reprends, je mets ça sur rewind, je remets ça à play. Souvent que. Non, allez pas croire ce mensonge-là. Ça. J'espère qu'il n'y a pas un qui va dire amen à ça. Jésus veut nous redonner tout ce que le diable nous a volé. Il nous a donné des promesses. J'ai vécu des promesses, puis je m'en suis fait voler beaucoup. Souvent, là, ma communion avec Dieu n'avait pas de communion avec Dieu. Parce qu'à quelque part, il est venu, il m'a trompé, il m'a séduit. J'ai tombé dans des affaires qu'il ne fallait pas. Puis je n'avais plus de communion avec Dieu. Pourtant, c'était une promesse qui était pour moi. Mais à quelque part, je m'étais fait voler. Des fois, on est zélé, on aime le Seigneur, on va avancer, puis il y a des bouts dans notre vie spirituelle. Je t'assume neutre, ça ne me tentait plus d'avancer. Je me faisais voler ce que le Seigneur produisait. Il dit, c'est lui qui produit en vous le vouloir et le faire. À quelque part, ça peut arriver, ça allait arriver que je me suis fait voler souvent ce que Dieu produisait dans ma vie. J'avais des capacités à faire certaines choses. J'ai passé des longues périodes sans rien faire pour le Seigneur. Parce que je m'étais fait voler, je me suis fait tromper, je me suis fait séduire, je me suis fait détourner. L'ennemi essayait de me voler ses promesses à Dieu. Il peut même faire que je les oublie. il me met de la brume dans mes pensées, puis là, je me nourris pas assez de la parole pour me renouveler de toutes ses promesses. Puis là, la brume vient, puis là, je vois plus clair, puis là, je m'en oublie que ce qui est le plan de Dieu pour moi. Puis il y a des longues périodes que j'ai pu vivre sans vivre au service de l'Évangile, dans les tâches d'autorité ou les postes que Dieu m'avait préparés pour moi. J'ai perdu souvent ma paix intérieure. Puis c'était des promesses que Dieu avait promis de m'accorder. Le péché était rentré dans ma vie, ça m'est arrivé. Puis si je vous demande la question à chacun de vous, est-ce que ça vous est arrivé de vous faire voler ce que le diable, ce que Jésus vous avait donné? De vous faire voler par le diable ce que Jésus vous avait donné ou ce que Jésus vous a promis dans sa parole ce matin? Vous avez déjà tout été au courant de ça, qu'est-ce que Jésus avait préparé pour vous, les plus précieuses promesses qui étaient pour vous, les bénédictions spirituelles d'un Dieu céleste qui étaient pour vous. Est-ce que vous marchez dedans? Ce matin, comment est-ce qu'il y en a de personnes qui peuvent dire ce matin, je suis malade, je souffre, j'ai des liens spirituels, je vis de l'oppression. Il y en a qui peuvent dire, j'ai perdu ma position spirituelle, un poste dans l'Église, j'ai perdu de la fermeté dans la foi, j'ai perdu les bénédictions qui étaient dans mon foyer, j'ai une perte de contrôle spirituel dans mon foyer. Les bénédictions ne sont plus là. Il y en a d'autres peut-être qui peuvent dire, j'ai perdu ma communion avec Dieu. Le péché est entré dans ma vie. Est-ce que vous posez ces questions-là présentement? Est-ce que le diable est en train de vous voler? Avez-vous perdu votre emploi? Avez-vous des problèmes financiers? Vous sentez-vous coupable, indigne, impur devant Dieu? Avez-vous perdu la joie de votre salut? Ou peut-être vous n'avez pas compris c'est quoi le salut en Jésus. Je parle là maintenant à ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus comme leur sauveur. Avez-vous compris que Jésus est à mort pour vous, qu'il voulait pardonner vos péchés, qu'il voulait vous donner la vie éternelle, qu'il voulait vous communiquer toutes les promesses, qu'il voulait vous sortir des ténèbres, qu'il voulait vous emmener dans la lumière, qu'il voulait sauver votre vie et inscrire votre nom dans le livre de vie? L'avez-vous compris? Où vous êtes en train de vous faire voler les promesses de Dieu? Quand j'ai dit au début, le Seigneur veut produire comme pas une colère, mais il veut produire un effet dans notre nous-mêmes, pour qu'on réalise que le voleur est venu pour dérober, égorger, détruire. Il est en train de voler même les chrétiens. Il est en train de voler, des égorger et des détruire, puis détruire toute leur vie. Puis que ce n'était pas le plan de Dieu pour chacun de vous. Puis il veut vous exciter, Seigneur, ce matin, à reprendre le contrôle spirituel de votre vie, puis à ressaisir par la foi ses promesses, puis à vous assir dans ses promesses, puis à rechercher de tout votre cœur ses promesses, puis de reprendre, de réclamer justice auprès de Dieu pour obtenir ce que Dieu avait préparé d'avance pour chacun de vous qui êtes ici ce matin. Jésus a payé pour que vous soyez, que vous marchiez dans ses promesses. Il ne veut pas que vous ayez cru en vain. Il ne veut pas que vous perdiez ce qu'il y a pour vous. Il veut que vous puissiez le saisir ce matin. Il ne faut pas se laisser déchoir de notre fermeté. Il faut reprendre de la fermeté. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut dans le Seigneur. Est-ce qu'on veut marcher dans la défaite d'Adam ou on veut marcher dans la bénédiction de Jésus-Christ? Est-ce qu'on veut marcher dans aucune espérance, aucun espoir, sauf que souffrir, avoir des problèmes, puis suer, puis le malheur nous attend, puis la mort? Ou on veut marcher dans une vie d'abondance, que Jésus a dit, mes brebis ont la vie et qu'elles soient dans l'abondance, une vie de santé, de bénédiction, d'autorité spirituelle, de paix, de communion avec Dieu, que la joie a d'espérance. Est-ce qu'on veut marcher sur ce bord-là ou on veut marcher dans la défaite? Ce matin, je vous pose la question. C'est le Seigneur qui vous la pose la question. Voulons-nous rester dans un état de défaite ou nous voulons marcher dans la victoire ce matin? Est-ce que vous voulez la prendre, la victoire, ce matin? Oui. Moi, je pense que le Seigneur, il voit nos cœurs, mais il veut qu'on bouge. Que tous ceux qui veulent, tu peux venir, Sylvain, que tous ceux qui veulent recevoir à nouveau ce que Jésus avait préparé d'avance pour vous, ce que Jésus avait déjà tout acquis, tout payé, c'est là pour tous les chrétiens, c'est pour chacun de vous. Si vous voulez, pensez à un point que j'ai nommé que l'ennemi vous a volé. Avancez-vous en avant ce matin, puis on va prier ensemble pour réclamer au Seigneur, puis de rejeter le mensonge de l'ennemi, puis de réclamer au Seigneur ses promesses, parce que ses promesses sont pour nous, puis on doit marcher dans ces promesses-là. Avancez-vous en avant pendant que les musiciens vont commencer à chanter le premier chant. Mais avancez avec foi. Croyez que ce que je vous ai dit, ça vient de la parole de Dieu, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est des promesses pour chacun de nous. Puis ça peut être un point ou tous les points qu'on a perdus, qu'on s'est fait voler. Puis le Seigneur veut tout nous les redonner, mais il s'attend à ce qu'on les réclame avec foi, qu'on les demande avec foi, avec fermeté, avec un désir ardent à vouloir obtenir ce qu'il y avait nous acquis. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Puis ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus comme leur sauveur personnel, ceux qui ne l'avaient même pas encore compris qu'il fallait qu'ils donnent leur vie au Seigneur pour recevoir le pardon, puis pour pouvoir avoir la vie éternelle, puis pouvoir avoir toutes les promesses de Dieu. Je vous donne l'occasion ce matin, si vous voulez accepter Jésus comme votre sauveur personnel, je vous demande de vous avancer en avant ici, devant les escaliers, puis je vais prier pour vous après. C'est peut-être la dernière fois que vous entendez parler du message de l'Évangile. Il n'y aura peut-être pas d'autre occasion, parce qu'on ne sait pas c'est quoi la longueur de notre vie. Pendant que tout le monde est en train de chercher la face de Dieu pour leur propre vie, je vous demande d'avancer en avant, parce que la Bible a dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en le croyant du cœur que tu parviens à la justice. C'est en le confessant de la bouche que tu parviens au salut. Avancez-vous en avant, je vais prier avec vous. Venez recevoir Jésus comme votre sauveur personnel pour rentrer dans les bénédictions et les promesses de Dieu pour vous. Résistez pas. Avancez-vous.